Bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi c'est Antoine.
Et moi c'est Adrie. Aujourd'hui, on va aborder un thème de saison. On va parler de nos jeux nostalgie de Noël. Des jeux qu'on a reçus ou qui nous font penser à Noël.
Disons que je trouve que la période s'y prête vraiment bien. Suite à différents échanges qu'on a pu avoir avec vous, il y avait pas mal de jeux nostalgie qui revenaient au sujet de notre précédent épisode. Et du coup, c'était plutôt sympa. Et ça nous a amené directement à considérer ce sujet pour cette semaine.
Et puis c'est sympa aussi d'essayer de se remémorer ces bons moments du passé où on a reçu ou deux.
Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt sympa dans le sens où au moment où on tourne l'épisode, c'est quand même le début du mois de décembre, je pense que ça peut quand même nous aider à nous mettre dans l'esprit de Noël. L'esprit de Noël 2020 qui est assez particulier.
Un peu particulier. Pour l'instant, je le ressens pas trop, l'esprit de Noël, je t'avoue.
Moi non plus. J'ai toujours du mal à me mettre dans Noël. C'est vrai que c'est quelques jours avant, tu sais, où je me dis « Ah oui, c'est vrai ».
Mais qui est Noël ?
C'est vrai. Mais qui est Noël ?
Non, moi souvent, c'est les décorations à l'extérieur, les musiques, le marché, tout ça. Et c'est vrai que bon, avec le confinement, enfin, perso, moi je sors pas trop me balader en mode « Ah, c'est joli !»
Ouais, moi non plus. Est-ce que t'as un jeu comme ça qui a marqué une de tes périodes de Noël ?
Le jeu qui m'a le plus marqué à Noël, et je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, moi c'est Tales of Symphonia.
C'est beau ça.
Alors j'ai une anecdote par rapport au moment où j'ai reçu ce cadeau à Noël donc. C'était mon papa qui faisait les installations. Et mon frère, à Noël, il avait reçu la très grande maison de poupées Playmobil, tu sais.
Oh, génial!
Elle est sublime, cette maison, elle est immense. Mais il fallait la monter un petit peu. Donc mon frère s'était levé très tôt le 25 pour demander de l'aide à mon père pour monter la maison. Mon père me dit, t'inquiète, après j'installe la GameCube. Ou mon GameCube, je sais jamais. Bref, donc j'attends. La maison est enfin finie d'être construite, donc mon papa installe la GameCube. Je m'installe devant, et là, genre, 10 minutes après, « Allez, on va chez papy, mamie, manger !» Non !
Ah, très bien. Sachant que le prologue devait même pas être terminé, ou...
Ouais, c'est ça, je venais de commencer, j'étais « Oh !» J'avais attendu en plus toute la matinée, parce que moi aussi, je m'étais levée tôt. Et là, frustration.
Et surtout que c'est le pire truc qu'on aurait pu te faire, parce que les RPG, typiquement, si tu t'y consacres pas au moins une ou deux heures pour rentrer dans l'univers et passer un petit peu la phase d'introduction qui peut des fois être un petit peu répétitive ou commune à tous les RPG, donc forcément ça lasse un petit peu.
Bah ça va, comme c'était mon premier RPG, mais tu sais, tu peux pas... Tu sais, ils présentent les personnages, ils présentent l'univers, et puis t'as plein de dialogues, donc tu peux pas vraiment sauvegarder. Après, bon, je vais pas me plaindre, enfin, j'étais contente d'avoir mon truc et d'aller manger avec toute ma famille chez mes grands-parents, mais tu sais, sur le coup, t'es là, t'es contente, tu t'installes, tu vas profiter, et là, on dit, on y va, et toi, t'es là, genre, mais ça t'a pris 2 minutes à installer le truc, et t'as mis 3 heures à faire la maison de poupée, pourquoi ?
C'est clair.
Non, après, je me plains pas, c'est juste que c'est un souvenir qui me fait beaucoup rire. Le Père Noël t'a amené ta console, t'es toute contente, et tu fais, oui. Et là, mais j'étais très contente de mon cadeau et j'en ai beaucoup profité juste après avoir mangé un délicieux repas en famille. C'est tout ce qu'on veut à Noël.
Tu m'étonnes.
Voilà, la petite histoire.
Je suis en train d'imaginer au bout des 10 minutes, genre, bah, mais non, mais ça vient de commencer.
Mais mon jeu.
Ouais, c'est plus ou moins un truc qu'on a connu, je trouve, ce déphasage entre guillemets.
Oui, et puis cette envie d'essayer le cadeau, quoi.
Oui, bah forcément, ouais. Forcément. C'est un type de jeu qui te projette tellement fort dans l'univers que t'es vite dedans, quoi.
Ouais.
Moi, pour les jeux qui me rendent nostalgique, c'est assez facile parce que ça englobe une période qui, pour moi, correspond à la PlayStation 1, essentiellement. Étant donné que c'était vraiment, la première grosse console que j'ai eue. J'avais les Game Boy avant, mais je sais pas, j'en ai des souvenirs un petit peu plus nébuleux maintenant. Parce que j'ai Pokémon qui me vient en tête, bien évidemment, donc je ne vais pas développer Pokémon, au grand bonheur de certains, et certaines. Mais voilà, je sais pas, je gravite beaucoup autour de la PS1 pour ces jeux qui me rendent nostalgique. Surtout que bah, certains, je les ai encore aujourd'hui. Le fait de les avoir encore physiquement, tu sais, je pense que ça attache aussi ma notion de nostalgie à ces jeux.
Oui.
vu l'époque, la tranche d'âge, etc., on était souvent touchés par les jeux à licence, donc soit issus de films ou de ou studios d'animation relativement connus. Et le premier qui me vient en tête, c'est Une fin de loup. Je sais pas si tu connais ce jeu.
Pas du tout, je connais.
C'est un jeu licencié de Warner Bros. Un jeu qui retrace les péripéties du Coyote.
De Bip Bip et Coyote.
Ouais, c'est ça.
Ah !
Et en fait, il est en histoire solo. Alors des fois, tu sais, tu t'attends souvent à des platformers pour les jeux à licence ou ce genre de choses. Et là, pas du tout, en fait. C'est un jeu d'infiltration. Trop bizarre.
Un jeu d'infiltration Bip Bip et Coyote.
Mais oui, c'est génial. Alors, il n'y a pas vraiment, ou pas à ma connaissance, Bip Bip dedans. Tu joues le rôle de Coyote et tu dois kidnapper les moutons qui sont gardés par le chien qu'il y a dans l'animé, en fait.
Mais c'est terrible.
C'est horrible, parce que bon, déjà en termes de moralité, tu joues le méchant.
Tu joues le méchant qui va manger les moutons qu'il a volés.
C'est ça. Et en termes de gameplay, eh ben écoute, c'était vachement poussé pour l'époque et vachement créatif. Tu pouvais t'aider de gadgets, etc. Et tu avais plusieurs possibilités pour arriver jusqu'à tes fins, à savoir capturer un mouton. C'est un jeu qui m'efforçait à faire travailler ma créativité, tu sais, pour déjouer un petit peu la surveillance du chien de berger. Et je sais pas, en fait, il m'a vraiment marqué comme jeu. J'avais l'impression que c'était les premiers jeux qui me faisaient vraiment, bon, j'allais dire réfléchir, mais qui me poussaient un petit peu à chercher des solutions,
ouais,
à résoudre des
vois.
Problèmes, peut-être plus que d'autres.
Bah, c'est vrai que souvent, les jeux à licence comme ça, c'était, comme tu le disais, des jeux de plateforme. Donc j'en avais eu quelques-uns à Noël, moi aussi, avec Lilo et Stitch, ou des trucs comme ça, avec les terribles mots de passe dont on se rappelle tous qu'on perdait au bout d'un moment ou qu'on essayait de piffer pour avancer sans parce qu'on n'arrivait pas à faire le niveau.
Moi, ce qui me faisait rire, tu sais, c'est que j'en griffonnais dans tous les coins, dans les boîtes de jeux ou des trucs comme ça.
Moi aussi,
et
j'y perdais.
Ça ressemblait vite à rien.
Et dans un jeu de licence que mon frère avait eu à Noël, c'était Chicken Run.
Oh, je l'avais, il m'a traumatisé ce jeu.
Et il y avait ce système aussi un peu... Alors là, pour le coup, c'était la poule qui devait pas se faire repérer.
Et c'était le Metal Gear de la poule.
C'était sur console portable, moi, qui l'avais, je crois.
Ah, il m'a traumatisé, ce
et
jeu.
Et j'avais trop peur. Et là, ton jeu, il me fait penser...
Tu viens de m'emmener loin. Tu viens vraiment de m'emmener loin, là. J'ai un gros flashback sur ce jeu qui m'a vraiment traumatisé.
Oh, pardon.
Tu me complètes ma liste de jeux pour cet épisode, c'est génial. Mais, et tu y avais joué ?
On s'était échangé les cartouches, oui, j'avais essayé un peu, et c'était vraiment très dur et très stressant.
Non mais il est super dur, ce jeu.
Et là, le jeu dont tu me parlais, il m'y faisait penser.
C'est un petit peu les mêmes boucles de gameplay, c'est un petit peu les mêmes fonctionnalités. Enfin, ce qui t'est demandé dans le jeu est un peu similaire. La seule petite nuance que je peux ajouter, c'est que dans Une fin de loup, t'as une sorte de monde plus ou moins ouvert. Mais t'as pas cette impression de couloir que tu peux avoir dans Chicken Run.
Ah ouais, non.
Où là, bon, pour le coup, c'est un jeu d'infiltration qui est vraiment très difficile parce que, à l'époque, bon, peut-être que si je le refaisais aujourd'hui, je dirais pas ça. Mais il y avait vraiment une tension dans le jeu qui était, bon, destinée du coup à des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. Enfin, moi, quand je me faisais capturer par un des chiens ou par un des fermiers, j'étais terrifié, quoi. Au point où je posais la manette et je m'en allais.
Mais ça faisait trop peur. En plus, le film est plutôt amusant, même s'il y a cette dimension très sérieuse. Donc je pense que les parents achetaient le jeu en se disant « ça va être marrant ».
Ouais, il y a une double lecture assez dit. Bah bon, après, c'est ce qui fait le charme de ce genre de film.
De ce genre de film, ouais.
Mais il y a une double lecture assez sombre, je trouve.
Le jeu, là, pour le coup, elle avait pris que le parti pris du sombre, limite. C'était un peu stressant.
Même dans les ambiances sonores et tout, c'était assez particulier. Dans Une fin de loup, t'as vraiment quand même l'aspect cartoon, donc ça reste quand même assez fun, et puis les gadgets sont très cartoonesques, ils ressemblent énormément à ce que tu peux trouver dans l'univers du dessin animé, donc c'était vraiment fun, et tu m'as amené quelque part là avec Chicken Run, ça m'a rappelé des souvenirs.
Désolé, parlons de choses agréables.
Du coup, ça me permet d'enchaîner sur un jeu tout aussi coloré, mais qui m'a laissé des souvenirs un petit peu plus marquants. C'est Crash Team Racing, mais ce n'est pas le remake, c'est le tout premier, qui était sorti sur la PlayStation 1 et sur lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Typiquement cette période, tu sais, où tu avais peu de jeux quand t'en avais un, puis jouais jusqu'à plus soif.
Ouais, je vois le genre, ouais.
Et je crois que c'était mon premier jeu de cartes, donc sachant qu'en plus j'avais joué quand même par-ci par-là à des jeux de Crash, j'avais quand même déjà un léger attachement à la série. Bah c'est super divertissant, enfin c'est vraiment un super jeu de karting que j'aime vraiment beaucoup et j'ai beaucoup profité du remake parce que bien évidemment en fait ce qui fait la force de ces jeux c'est le facteur nostalgie qui est véhiculé par les joueurs de l'époque. Et j'étais super content de jouer au remake, ça m'a rappelé plein de souvenirs, je me souvenais de tous les persos.
D'accord, moi je connais pas du tout, je t'avoue.
Ouais, c'était peut-être pas du tout le genre de...
Alors, je suppose que c'était avant que sur PS?
Oui, bah il y a le fait que ce soit lié à une seule plateforme. Je pense que c'est typiquement le genre de truc tu passes à
Voilà.
côté.
Et c'était une plateforme que j'avais pas, donc je suis passée à côté, ouais. Mais ça a l'air plutôt fun. Et du coup, ça peut jouer en multi ou pas aussi?
Alors déjà à l'époque tu pouvais y jouer en multi-local et bah, du coup pas en multi-internet bien évidemment.
Oui, bien évidemment.
Et les jeux de cartes assez classiques comme Mario Kart, hein, on est obligé de, entre guillemets, de le citer parce que c'est une référence. Sauf que t'as quelques variantes de gameplay où dans les Mario en fait tu peux drifter, donc en gros pendant un virage tu peux avoir une légère accélération. Là la petite nuance avec Crash Team Racing et ce qui le rend, je trouve, à mon sens, plus intéressant, t'as un système de barre qui se remplit et c'est à toi d'activer le boost en fait avec une des gâchettes de la manette.
D'accord.
Donc du coup c'est beaucoup plus en termes de mémoire musculaire pour le jeu, c'est super satisfaisant et en fait au point où j'ai retrouvé cette sensation quand j'ai repris le remake.
Ah oui, ah c'est marrant
C'était
ça.
super plaisant de d'avoir, tu sais, cette petite mémoire physique qui se manifeste et qui te rend nostalgique aussi. Enfin, du coup c'était vraiment sympa.
Ok, ouais bah c'est vrai que tous ces jeux un peu multi, c'était un peu aussi les jeux de Noël.
Comme je l'ai dit dans un précédent épisode, j'ai pas d'amis, j'ai pas de voisins, mais j'avais deux manettes. Donc je te laisse imaginer ce que je pouvais faire avec deux manettes et Crash Team Racing.
Tu jouais, tu t'affrontais,
Ouais.
hein? Oh, trop bien, parce que c'est vrai que moi j'avais des frères et sœurs, donc on jouait ensemble à ce jeu-là, mais toi tu n'as pas de frères et sœurs, donc... D'accord, tu jouais avec tes deux manettes.
Pour des défis ou des trucs comme ça. Et c'est un autre sujet, mais à l'époque, tu avais pas forcément les trophées, les récompenses, ce genre de choses. Donc du coup, tu te faisais tes propres buts, tes propres objectifs.
Oui, tu faisais tes petites
Et
histoires et
c'était
tout, quoi.
super fun, oui, voilà. Tu stimules énormément ton imagination et c'est un jeu qui m'a laissé des bons souvenirs. Je me souviens, je l'avais eu pour Noël, il m'a duré très 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 longtemps. Et aussi, tu sais, le fait qu'il ait une identité graphique très marquée, je pense que ça participe aussi au fait que tu t'en souviennes bien, en fait.
Bah moi, il y avait quoi? Bah moi, j'ai eu la Wii. Et donc, qui dit Noël dit famille. Qui dit famille dit jeu en multi. C'était Super Smash.
Oh
Alors, sur Wii,
non!
je sais plus.
C'était pas le jeu de bowling, c'est étonnant.
Bah, je crois qu'il n'était pas sorti à ce moment-là. Mais je me demande si c'était pas Super Smash et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur Wii. Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose comme ça. Et aussi, il y avait les Rayman et Lapin Crétin.
Ah, oh, c'est beau
Où il y a
ça.
plein de petits mini-jeux trop drôles à faire à plusieurs aussi. C'est des jeux qui suivent un peu, et pareil, tu joues des heures, et tu ris. Alors bon, moi, j'avais la chance d'avoir des gens avec qui jouer, j'avais mon frère et ma sœur.
Ouais, pour les party games, c'est quand même super chouette, hein.
Même si tout seul, ça peut être marrant, c'est vrai qu'à plusieurs,
Ouais, tu partages différemment.
c'est différent, voilà, c'est ça.
Puis ça laisse vraiment
Ah,
des
ça
bons
me rappelle des
souvenirs.
souvenirs. Ouais. Et puis là, c'est pas Mario Kart où t'attrapes la manette de l'autre pour l'envoyer dans le décor. Hein. Quoique, je crois qu'il y a déjà eu des parties de Smash où on se bousculait un petit peu. Et surtout avec la Wii, avec le mouvement, je crois que sur les lapins crétins, il y a eu
Des petits
des coups
accidents.
de... c'est pas les Joy-Con, c'est les... Comment ça s'appelle, là?
Les
Si
Wiimotes.
t'avais deux manettes.
Le Nunchuk.
Le Nunchuk. J'ai oublié que ça s'appelait comme ça. Il y a eu deux, trois Nunchuks envoyés dans le nez.
Le marketing de la Wii à l'époque, il était vraiment
Ah
top.
non, mais le marketing de Nintendo est toujours assez marrant quand même.
Prends pas trop au sérieux, je trouve ça vraiment drôle.
Ils inventent toujours des trucs assez... La Switch, la console de salon portable, bon...
Carrément, bah même la Wii à l'époque, enfin de toute façon, ça a été un succès monumental.
Ouais, c'était révolutionnaire. Bah même la DS, hein.
Oui, c'est vrai.
À chaque fois, c'était eux qui se... Je dis pas qu'ils sont mieux, hein. Mais je les trouve novateurs.
C'était un parti pris de leur part de toucher plus de joueurs et de se focaliser sur l'expérience de jeu plutôt que sur les performances du jeu. Alors après, c'est un autre débat, hein, mais petit aparté du coup. Je pense aussi que ça leur permet de complètement s'émanciper de la guerre des consoles. Parce qu'ils se créaient petit à petit leur propre niche en fait. Et ça leur donne une originalité qui leur permet de s'émanciper de la concurrence. Et ça, c'est super cool.
Oui. Ah oui, comme ils proposent à chaque fois des choses complètement nouvelles, le motion gaming.
Que les autres plateformes ont essayé d'imiter d'ailleurs.
Je sais pas si c'était mieux ou pas, comme j'ai pas vu les autres plateformes.
Nintendo l'a beaucoup mieux géré. C'est assez unanime d'ailleurs, je trouve, comme avis. À voir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nous, hein, bien évidemment.
Informez-nous.
Informez-nous.
On a parlé des jeux à licence et puis on a parlé un peu de la DS. Il y a deux jeux que j'avais. Il y en a un, je l'ai eu à Noël, et l'autre, c'est ma sœur qui l'a eu. Alors, le premier, c'était.
Ça sent le jeu du début des années 2000 quand même.
Je devais avoir des poupées en lien. Et c'est sorti en 2006, hein, j'étais grande déjà. J'ai toujours beaucoup aimé les jouets, tout ça, donc je vais certainement encore mes poupées Bratz.
Oh, c'est beau.
Et c'est vrai que les poupées Bratz, je les aimais bien, elles avaient un petit côté un peu rock et tout.
Oui, c'est vrai qu'elles avaient un côté un peu... Je suis différente.
Il y a des jeux à licence qui ressortent, bien évidemment, dans le lot des paquets. Et donc, c'est Bratz Forever Diamonds sur DS
Forever
qui est
Diamonds.
arrivé sous le sapin.
Les diamants pour toujours.
C'est vrai que sur le coup, j'étais un peu contente parce que bon, t'es une jeune ado. De ce que je me souviens, il y avait maquillage, coiffure, tenue. Donc, c'est des petits trucs quand t'es jeune ado, tu te cherches un petit peu, tout ça. Donc, c'est rigolo de pouvoir le faire en jeu. Mais je crois que même adolescente, je m'étais fait la réflexion que c'était un peu vide. J'ai vu ma Bratz très pixelisée, très quadrilatère, polygone.
La Bratz polygonale.
Voilà, marcher dans un hall de bus. Et c'est vrai que 2006, quand même, quand tu vois Tales of Symphonia ou d'autres trucs, c'était un peu pas très joli, hein.
Bah en fait on s'en rendait pas forcément compte à l'époque, mais il y avait déjà un fossé, je trouve, entre les jeux entre guillemets à licence et puis des jeux plus
Plus travailler, quoi.
Ouais, voilà. Et ça nous empêchait pas de les aimer, hein, la preuve, hein, mais
Bah, j'ai passé, disons, quelques heures, 1 ou 2 heures sûrement, je pense, à bien m'amuser dessus, même si au fur et à mesure, je me disais, mais c'est tout. Mais c'était marrant, hein. C'est une expérience en tout cas que j'ai eue sous le sapin.
sur le sapping.
Des petits mini-jeux.
Qui avait aucun sens, je suppose.
Bah, en fait, c'était les jeux Barbie. Tu vas faire le podium, t'es une star. Alors bon, c'est rigolo. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah bon, on peut faire des jeux où il n'y a que ça, d'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas internet, donc moi, je m'attendais pas à ça. Expérience intéressante. Je vous conseille de regarder des petites vidéos de let's play de Bratz Forever Diamonds pour vous faire une idée de. Je crois même qu'il y avait un mini-jeu qui était buggé. Ou alors c'est ma DS qui commençait à rendre
Ou
l'âme.
alors, tu sais, c'était les mini-jeux avec la fonctionnalité de souffler sur l'écran.
Oh mon dieu, oui. Alors pour le coup, j'en ai un avec la fonctionnalité de souffler sur l'écran et tout, qui était bien cool. Et qui est aussi un jeu nostalgie de Noël, parce que j'avais dû l'avoir à Noël. C'était Lost in Blue, pareil sur DS. Un jeu de survie, alors pas d'horreur pour le coup, juste survie. T'arrives sur ton île déserte, ton avion, bateau, je sais plus, s'est écrasé sur une île déserte.
Ça commence
Deux
bien.
survivants. C'est un système un peu compliqué. Tu peux jouer qu'un seul bonhomme, mais tu dois en gérer deux. Donc il y en a un, clairement c'est un Tamagotchi, hein. C'est la fille et ça ne peut être que la fille. Heureusement ils ont changé ça dans le Lost in Blue 2.
Histoire de te donner l'opportunité de jouer un personnage masculin ou féminin.
Voilà, parce que en gros tu peux jouer les deux, et quand tu joues la fille, tu peux pas sortir de ta grotte, parce que tu vis dans une grotte, et tu attends que le gars rentre de son excursion. Et quand tu joues le gars, tu peux soit emmener la fille avec toi et en gros tu la gères. Soit tu la laisses dans la grotte avec suffisamment de nourriture en espérant qu'elle pense à la manger
Mais c'est horrible.
plutôt que de mourir seule dans la grotte le temps que tu partes faire ton excursion.
Le jeu qui a l'écriture ultime médiocre du personnage féminin.
Le premier, c'était un peu ça. Mais c'est vrai que sur le coup, ne pas donner le choix. Bon, bref, c'est une autre histoire.
C'est un autre épisode.
Voilà, et c'est un très bon jeu, je trouve. Il est assez dur parce que bon, t'as ton Tamagotchi, hein, t'as une grande île à explorer, tu dois gérer les ressources, tu dois gérer ta faim, ta fatigue et ta soif. Tu auras des aliments que tu vas pouvoir cuisiner. Plus ils t'apporteront de satiété, plus tu dormiras bien et moins tu seras épuisé. Et en gros, si une de ces valeurs est à zéro, ton personnage ne court plus, il marche à 2 à l'heure, jusqu'à ce que ces valeurs reprennent même juste 1%. Il est en hypoglycémie, quoi, voilà. Et donc, bon, quand tu pars en excursion, tu dois calculer tout ça. C'est plutôt pas mal. Je le conseille aussi. Assez difficile, mais plutôt sympa. Et je sais qu'on l'avait eu à Noël et qu'on y joue encore au Nouvel An. Pour faire allusion au micro dont on parlait, là. Bah, en fait, pour allumer le feu, il fallait que tu fasses L, puis R, puis L, puis R, assez rapidement, pour simuler, entre guillemets, le mouvement où tu frottes le bâton de bois sur ton bout de bois et tes brindilles. Et quand c'était assez chaud,
C'était l'instant QTE.
il fallait souffler. Et alors, on était tous les trois là, à faire fou pour allumer notre feu de ses morts, pour pouvoir dormir. Ça a rajouté une petite dimension un peu du réel, quoi, même si, bon, ce n'était qu'un jeu.
Ça te rajoute une dimension mécanique assez sympa, je trouve.
Voilà.
Tant que c'est pas utilisé à toutes les sauces, je trouve ça pas mal.
Là, c'était indiqué. C'est vrai qu'il y a certains jeux où c'est pas indiqué, où d'un coup tu te dis bon. Puis tu souffles sur ta DS et ton truc, il marche. Et là, tu fais ah, ah. Voilà Lost in Blue. Je ne sais pas si je l'ai bien raconté. Mais voilà Lost in Blue.
Ouais, carrément. Moi, je te propose de rebondir sur un jeu qui parlera, je pense, à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de cet épisode. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup marqué une génération bien particulière, qui, je pense pouvoir dire, correspond aux millennials. Aux millennials. Alors, c'est un jeu à licence qui, comme par hasard, sortait autour de la période de Noël. C'est Harry Potter à l'école des sorciers.
Oui, j'en ai eu un aussi à Noël, je crois, d'ailleurs.
Donc, le début du passage à la 3D, qui était absolument catastrophique sur PlayStation 1. Donc, en fait, ça me fait rire, parce que quand j'y jouais, j'avais l'impression de jouer à un truc pas très très beau. Parce que surtout, quand tu vois les animations et les visages des personnages qui te font mal aux yeux, mais comme pas possible.
Oui.
Genre Hagrid le Blobfish, Dumbledore qui ressemble à rien, qu'on se le dise. Hein. Immonde, les textures elles étaient mais monstrueuses et c'est quand même drôle de voir à quel point tu peux occulter le rendu et la qualité d'un jeu parce que tu as entre guillemets ce filtre de la nostalgie et de l'attachement.
Et puis la joie de jouer à
une licence ou une série de bouquins ou un truc comme ça. Et c'est vrai que le premier Harry Potter, franchement il m'a laissé un souvenir assez...
Indélébile.
Plutôt indélébile, quoi. Bon, après, il fallait bien commencer quelque part. Hein. Enfin, je repense aussi au personnage de Neville. Quand tu le regardes, il te fait tellement mal aux yeux que t'es obligé de détourner le regard, le pauvre.
J'y avais joué avec toi.
Ouais, je m'en souviens très très bien.
Et moi, je me rappelle surtout, c'est du Quidditch.
Ah oui. Ah oui, ça, c'était assez violent. Hein. Ce genre de séquence en véhicule ou en...
Surtout le système de Superman 64, quoi.
Tu dois traverser des anneaux, c'était plutôt Harry Potter et la première commotion cérébrale, tu sais, parce que tu tapais tous les murs du château de Poudlard jusqu'à plus soif.
C'était très dur, hein.
C'était super dur, ouais, ouais, ouais.
Je pense que les vrais pros des jeux vidéo, c'est ceux qui arrivent à jouer sans se prendre un mur à Harry Potter 1.
Et j'ai appris des années plus tard qu'il y avait une carte de sorcier célèbre qui était cachée dans l'horloge de la tour. Genre ma tête a implosé à ce moment-là.
Ce moment où tu découvres plusieurs années plus tard un mystère d'un jeu que tu n'arrivais pas à élucider.
C'est clair, c'est tellement grisant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un jeu que j'aime bien regarder en stream à la période de Noël.
Bah, il est tellement drôle. Et puis bon, Harry Potter, pour moi, ça fait très Noël quand même. Hein. Surtout les premiers.
Surtout les premiers, oui, oui, c'est vrai.
Et moi aussi, j'avais eu un Harry Potter...
Un Harry Potter.
Moi aussi, j'avais eu un Harry Potter à Noël, et c'était aussi le premier, mais moi, j'avais pas eu les déboires de la 3D, étant donné que c'était sur Game Boy Color. Moi, je l'ai beaucoup aimé, il suivait plutôt bien l'histoire. Nation. On le regarde aujourd'hui, on le trouve un peu moche, mais enfin moi, à l'époque, je le trouvais très beau. On pouvait se balader dans Poudlard, moi, ça m'allait parfaitement.
Mon grand fantasme d'enfant, de pouvoir me balader librement dans Poudlard.
Et je l'ai fait je sais pas combien de fois ce jeu, parce que donc c'était des combats au tour par tour, et quand tu finissais une fois l'histoire, tu recommençais, t'avais gardé ton niveau, tes sorts.
Ah donc il y avait une dimension RPG dedans, trop bien.
Voilà, il y avait des items à utiliser, il y avait des sorts, certains ennemis étaient plus sensibles que d'autres, etc. Moi à la fin je défonçais tout, et je l'avais ressorti il y a pas longtemps sur Home Station, et bah, ça a vieilli quoi malheureusement, mais à l'époque, j'y ai joué peut-être pendant plus d'un an... En boucle, à visiter Poudlard.
Tu es un mage de niveau 58, Harry.
Par contre, je crois qu'à un moment, il y avait un bug. Tu sais qu'il y a dans les vieux jeux où t'étais bloqué si t'avais pas fait tel ou tel truc.
Une séquence d'action pas réalisée dans le bon ordre ou un truc comme ça.
Mais bon, après ça, c'était les vieux jeux. Et je sais que même après avoir eu Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Advance, là, les combats étaient plus au tour par tour, je crois. Je me rappelle plus trop. T'avais plus l'impression d'être dans l'école, etc. En plus, t'avais 2-3 sorts à lancer pour repasser des actions, si je me rappelle bien. Mais je retournais quand même sur le petit Harry Potter sur Game Boy Color 1, parce que franchement, je trouve que c'est... Bah moi, c'est le meilleur Harry Potter auquel j'ai joué, hein, sans vouloir...
Alors moi, je dois t'avouer que j'ai fait tous les jeux de la licence, et bon, forcément, il y a eu, tu sais, beaucoup d'itérations sur diverses plateformes, etc. Il y a même le 1 qui est ressorti après sur la PlayStation 2, etc., etc.
Ah ouais.
Ouais, 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 et il était bon, hein. Franchement, j'avais pas eu la chance de l'avoir, et tu avais même des versions différentes en fonction de la plateforme. Donc, par exemple, tu vois, le jeu sur GameCube était pas le même que celui sur la PlayStation, etc. En fait, la mise en scène était différente, le gameplay était différent, et moi, je sais que mon préféré, je l'avais mentionné dans un épisode précédent, c'était le Harry Potter 3. Et je sais pas vraiment pourquoi, mais en termes de fonctionnalité, de graphisme, etc., il y avait vraiment eu un pas en avant, et ça m'avait vraiment plu. Tu te sentais un petit peu plus en interaction avec le monde, et il y avait des idées vraiment plus poussées, je trouve, qui te liaient à l'univers, en fait.
D'accord.
Bon, après, souvent, comme tu disais, t'as le facteur nouveauté d'un premier opus quand tu joues à une licence, et forcément, ça te marque d'autant plus que d'autres itérations.
Ouais.
Donc je comprends que le 1 t'est beaucoup plus marqué.
Il y a le côté j'étais enfant, c'est ma première expérience à Poudlard. Je pense qu'il y avait aussi, c'était plutôt un bon jeu, je trouve, hein, parce que tous les autres, ça m'a jamais ramené le plaisir de mon petit Harry Potter à l'école des sorciers.
Oui, bah je comprends, ouais.
Sur Game Boy.
Puis bon, on va pas forcément parler des dernières itérations.
Mais surtout que moi, je crois que je me suis arrêtée au 4e ou au 5e sur Wii.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah tu t'es arrêté à peu près au bon moment, entre guillemets, parce que les derniers, en fait... Enfin non, je vais pas casser du sucre dessus, tout le monde tape déjà. Mais tu avais vu déjà des images du dernier, où c'était un Call of Duty version Harry Potter. Quand tu lançais un sort, il disait même plus le terme, c'était les papapapapapa.
C'était les feux d'artifice, et je crois que c'était Benzaï qui disait... il avait fait un montage en mettant... Hagrid, je crois qu'il disait qu'il fallait à tout prix pas utiliser la magie en dehors de l'école. Et juste après, tu voyais Ron, Hermione et Harry qui tiraient dans tous les sens.
Super drôle. Ça m'avait bien bien fait rire. En tout cas, une licence qui nous a beaucoup marqué, tous les deux, et je pense pas que nous soyons les seuls.
Ah non, bah je pense comme Pokémon ou des trucs comme ça, c'est des licences même encore aujourd'hui qui marquent.
Pour le meilleur et pour le pire.
C'est vrai que là je me dis, tiens, et si je me faisais un film pour Noël, et je me dis, tiens, et si je regardais Harry Potter 1.
Ouais, bah là c'est marrant, on en parle et ça me donne envie de me refaire un petit let's play des Harry Potter. Je pense aussi à une licence qui est beaucoup moins connue, à laquelle j'ai été confronté jeune et j'y étais pas mal attaché. Donc forcément ça faisait l'objet de cadeaux vidéoludiques. Et c'était la licence des Razmoquettes.
Ah, les Razmoquettes, les fameux.
Et je sais pas, il y a toujours une esthétique assez particulière. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et j'avais quasiment tous les jeux licencés. Je crois que j'avais les Razmoquettes à la recherche de Reptar sur la PlayStation 1. Et j'avais aussi toute la panoplie de jeux sur Game Boy, Color, Advance, les Razmoquettes à Paris, etc. Et c'était des petits jeux sympathiques. J'étais quand même assez lié à l'univers du fait de regarder les dessins animés quand j'étais enfant.
Oui, bah moi je regardais aussi.
Bah tu vois, et je me vois encore déballer les boîtes pour découvrir les versions Game Boy Advance des jeux des Razmoquettes quoi. C'était des jeux difficiles, avec un petit côté un petit peu arcade, et qui mêlaient plein de styles de jeux différents pour forcément plaire à un public assez varié. Souvent des mini-jeux ou des parcours de niveaux limités dans le temps. Et je sais pas, c'était des petits jeux légers, j'en ai des super bons souvenirs, et je les ai encore aujourd'hui, c'est te dire.
Ah oui, moi j'en avais un sur 64, mais je sais plus...
Alors c'était en 3D ou c'était en 2D?
C'était en 3D, tu devais récupérer des pièces, je crois, en faisant des mini-jeux.
Le même qui est sorti sur PlayStation 1.
Un univers assez grand, et avec ses pions tu pouvais acheter des objets, et ces objets je crois t'ouvraient des chemins un peu. Et surtout, il y a un moment, il m'avait un peu traumatisée parce que j'avais eu un bug, et je devais jouer avec Sophie.
Oui.
Et elle s'est bloquée dans une porte...
J'ai eu le même.
Et elle ne sortait plus de la porte. Et j'avais beau sauvegarder ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment... Je pouvais plus partir, en fait. J'étais bloquée.
Pas moyen de recharger. Ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai vécu la même expérience. Tu pouvais te balader librement dans la maison.
Tu pouvais te balader librement dans... C'était un monde, c'était un genre de parc.
Ouais, bah c'est exactement le même auquel j'ai joué.
Ce monde, c'était pas à Paris.
Alors oui, dans le parc d'attractions, c'était à Paris, ouais.
Et j'avais beaucoup aimé, j'y ai joué des heures aussi. Je sais pas si je l'avais eu à Noël aussi. Et moi, j'adorais les Razmoquettes. J'adorais ça.
Ouais, je sais pas, j'avais vraiment un attachement tout particulier à cette licence qui est un peu décalée, on va pas se leurrer. Qui était très difficile, d'ailleurs.
Bah, il était très dur comme jeu, hein. En plus, avec le bug, le terrible bug, là.
C'est vrai que oui, c'est le genre de truc qui peut nuire à ton expérience. Surtout que bon, à l'époque, tu comprends un petit peu moins pourquoi, comment...
Surtout, bon, moi, je le fais peut-être toujours encore un peu maintenant, mais moins. Mais je me faisais mes petites histoires, hein, clairement, et je m'attachais à mon bonhomme. Hein, T'es là, t'es bloqué, tu fais mais non. Et puis bon, en plus, les mini-jeux, ils sont durs. Alors quand t'es enfant, t'es content, t'as réussi. T'as pas envie de recommencer. Mais des bonnes tranches de rire. Le golf m'a beaucoup marqué.
Moi aussi, c'est la deuxième fois là, hein, mais tu m'as emmené quelque part là.
Et donc toi, tu les avais tous eu?
Peut-être pas tous, mais j'en ai eu 4-5, c'était un petit peu la licence phare, entre guillemets, que je retrouvais souvent dans mes superbes cadeaux de Noël, et qui m'ont laissé des bons souvenirs en tout cas.
Oui, ah bah ça c'est les petits jeux, certes à licence, mais qui font plaisir quoi. Je me rappelle du golf, de la boutique, rapidement, j'ai un vague souvenir, et de la porte de ses morts.
La porte de la mort.
La porte entrouverte qui bloque ton bonhomme. Enfin, je sais pas, moi ce qui me fait mal, c'est que je pense que j'oublie plein de choses.
Oui, moi aussi. Il y a forcément plein de jeux auxquels on passe à côté.
Et je réfléchis et je m'en rends compte maintenant, en fait, qu'il y a plein de trucs ouais, que j'ai oubliés, ou alors les jeux, je les ai pas mis dans la case Noël, alors que je suis sûre il y en a où je les ai eus à Noël.
Moi aussi, je suis convaincue que j'en oublie plein.
Les jeux à licence, c'est des jeux qui parlent au Père Noël. Il sait à peu près de quoi ça parle, donc quand il les voit, il se dit...
Les jeux à licence, c'est les jeux qui sont sponsorisés par le Père Noël, c'est ça?
Bah, il les connaît, quoi. Il sait à peu près ce que c'est que les Razmoquettes. Alors il se dit, tiens, ouais, allez, hop. Hop, dans ma hotte.
Hop, dans ma hotte.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt. Suivez Éclat d'XP sur Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que sur SoundCloud et TuneIn. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Pouet.
Pouet. Et partagez-nous vos éclats d'XP.